Studio Tamani, voici nos informations en français.
Merci de votre constante fidélité au programme du Studio Tamani. Monsieur Dame, bonjour et bienvenue aux informations. Voici les titres. Des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, voilà entre autres les charges qui pèsent contre le djihadiste Al-Hassan Ag Abdelaziz. L'audience de confirmation des charges contre cet ancien commissaire de la police d'Ansar Dine à Tombouctou s'ouvre ce lundi devant la Cour pénale internationale à La Haye. Fin du 33e sommet de l'Union africaine. Les chefs d'État africains ont donné hier le coup d'envoi officiel de la zone de libre-échange continentale africaine. Selon les responsables de l'Union africaine, cette zone va booster le développement économique de l'Afrique. Fin ce lundi des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Le Mali va affronter aujourd'hui à 16h la Côte d'Ivoire. Selon un coach de l'équipe nationale locale du Mali, ce match à l'allure d'un derby n'est pas au-dessus des moyens des joueurs maliens. À la présentation, Mariam Meiga. L'audience de confirmation des charges contre le djihadiste Al-Hassan Ag Abdelaziz Ag Mohamed Ag Mohamoud s'ouvre ce lundi 8 juillet devant la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas. Plusieurs chefs d'accusation, notamment les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, pèsent contre l'ancien commissaire de la police d'Ansar Dine à Tombouctou pendant l'occupation entre 2012 et 2013. La procureure doit prouver au juge l'implication d'Al-Hassan dans ces crimes qui lui sont reprochés. Les détails avec notre envoyé spécial à La Haye, Sékou Gadjigo.
Torture, viol et esclavage sexuel, persécution, atteinte à l'intégrité corporelle et à la dignité de la personne, attaque dirigée contre les bâtiments religieux et monuments historiques. La liste n'est pas exhaustive. Le document contenant les charges que le bureau de la procureure retient contre Al-Hassan Ag Abdelaziz Ag Mohamed Ag Mohamoud compte près de 500 pages. Et c'est à l'issue de cette audience qui va durer plus d'une semaine que les juges de la chambre préliminaire vont confirmer ou non ces différentes allégations. La procureure devrait apporter les preuves pour convaincre les juges que le suspect a commis ces crimes. Si les preuves fournies par la procureure sont jugées suffisantes par les juges, ils vont renvoyer l'affaire devant une chambre de première instance, laquelle sera chargée de conduire le procès lui-même. Arrêté en avril 2017 par les forces françaises dans l'extrême nord du pays, Al-Hassan Ag Abdelaziz Ag Mohamed Ag Mohamoud a été transféré en mars 2017 à la demande de la procureure de la CPI. Il est le deuxième Malien qui devrait être jugé par cette juridiction internationale après Al-Mahdi Al-Faki. Ce dernier, condamné à 9 ans de prison, purge sa peine en Écosse au Royaume-Uni depuis août 2018. Sékou Gadjigo depuis là est au siège de la CPI aux Pays-Bas pour Studio Tamani.
Les victimes de cet ancien responsable de la police islamique de la région de Tombouctou attendent impatiemment l'ouverture du procès et demandent que justice soit faite. Elles souhaitent la réparation du préjudice moral, physique et matériel causé par les agissements d'Al-Hassan Ag Abdelaziz au cours de l'occupation de la région par les groupes terroristes. Écoutons cette victime de Tombouctou sous couvert d'anonymat, joint par Mahaman Babakunta.
Concrètement, nous voulons d'abord que nos victimes puissent savoir en réalité quelles sont les motivations qui ont poussé M. Al-Hassan et sa bande à procéder à ces exactions-là, que vraiment nous ignorons, nous ne savons pas pourquoi. Nous souhaitons à ce que toute la chaîne puisse être jugée. Nous pensons que la justice internationale a les possibilités de pouvoir faire ce travail-là parce que nous avons confiance en elle plus qu'en notre justice. Certes, nous devons avoir confiance en la justice malienne, mais les moyens aujourd'hui ne permettent pas vraiment à ce que la justice malienne puisse rendre une décision aussi noble pour nous que la Cour pénale internationale. Nous avons de l'espoir pour la justice internationale qui sera rendue bientôt.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en commentant nos informations sur la page Facebook et le compte Twitter ou tout simplement recevez les informations du Studio Tamani en envoyant Studio Tamani par WhatsApp au 77 01 58 01. 33e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État africains ont donné hier le coup d'envoi officiel de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Une cinquantaine de pays sont signataires de cet accord. Lors de la cérémonie d'ouverture du sommet, 4 pays l'ont ratifié. Selon les responsables de l'Union africaine, cette zone va booster le développement économique de l'Afrique. Elle intervient au moment où la sécurité de certains pays du Sahel est menacée. Plus de détails avec Assetou Kanté.
Envisager de depuis le sommet inaugural de l'OIA, actuelle UA, en 1963, c'est seulement 56 ans après que la zone de libre-échange continentale africaine voit le jour. Ce 33e sommet de l'Union africaine a permis aux pays africains comme le Gabon et la Guinée équatoriale de ratifier eux aussi à leur tour l'accord sur la ZELECAF. Ainsi, sur les 54 pays signataires, ce sont 25 qui l'ont ratifié. Avec la ZELECAF, la croissance de l'économie africaine sera deux fois plus rapide que celle du monde développé, selon le président de la commission de l'UA. Pour les responsables de l'Union africaine, la ZELECAF constitue un marché d'1,2 milliard de personnes. À cet effet, elle créera un marché de 3 000 milliards de dollars sans aucun droit de douane ni restriction à la frontière. Aussi, cette zone va favoriser l'entrepreneuriat et l'emploi de la jeunesse pour réduire l'exode rural, la migration, entre autres. Pour la réussite de la ZELECAF, les chefs d'État ont mis un accent particulier sur la paix et la sécurité en Afrique, dont certains pays du Sahel comme le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina et le Tchad sont confrontés. Selon Moussa Faki Mahamat, après donc la ZELECAF, l'autre projet phare de l'agenda 2063 est celui de faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2020. De Niamey à Setou Kanté pour Studio Tamani.
Résoudre la crise du centre en s'appuyant sur nos valeurs traditionnelles de société. C'est possible selon le mouvement ATEM qui vient d'être porté sur le fonds baptismaux ce samedi à Sévaré. Selon le président de la coordination Sidi Ongoïba, le mouvement ATEM vient combler un vide, car jusqu'ici c'est un pan entier de la société malienne qui a été ignoré dans la résolution de la crise, notamment les légitimités traditionnelles et religieuses. Sidi Ongoïba est joint par Siaka Zed Traoré.
On a toujours eu des solutions importées, préfabriquées. Pour nous, il est temps aujourd'hui de retourner à nos traditions ancestrales qui nous ont permis aujourd'hui de vivre en toute tranquillité pendant des siècles. Ces sources, c'est quoi? Nos détenteurs de la tradition, nos chefs traditionnels d'Ozo qui sont de la confrérie, qui ont hérité de père en fils, nos imams et nos marabouts et nos chefs de village. Dans ces zones-là, nous avons eu la tranquillité pendant des années parce qu'il y avait une communion entre les chefs de village et les chefs traditionnels de toutes les communautés confondues. Nous, on veut la solution de la base. Ceux qui sont aujourd'hui sur le terrain qui vivent la situation, il est temps aujourd'hui de les demander quelles sont les solutions qui peuvent nous apporter la paix, les voies et moyens pour atteindre la paix. La guerre se passe dans les villages. Il y a eu des concertations, mais des concertations qui sont venues un peu dans la hâte. Il n'y a pas eu de concertation de fond. Il faut qu'entre eux-mêmes, ils soient capables de se parler. Comme ça, à partir de là, les solutions peuvent sortir de ces dialogues-là.
Sport, football, Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019. Le tableau des quarts de finale sera complet ce lundi avec les deux dernières rencontres des huitièmes de finale. Les Aigles du Mali affrontent les éléphants de la Côte d'Ivoire à 16h. Pour le coach de l'équipe nationale locale du Mali, cette confrontation à l'allure d'un derby n'est pas au-dessus des moyens des joueurs maliens. Pour lui, les Aigles doivent jouer avec un esprit gagnant au lieu d'un esprit de revanche. Nouhoun Djani est joint par Siaka Zed Traoré.
Cette compétition, ça se joue mentalement. C'est d'être présent les jours J. Il faudrait que les joueurs répondent vraiment présent, l'équipe le plus costaud dans la tête, sur le plan mental, plus organisé, plus sérieux dans tout ce qu'ils font par rapport à l'aspect défensif, par rapport à l'attaque, les plus d'occasions qu'ils ont, qui vont les mettre au fond. Je pense que c'est cette équipe qui va gagner ce match-là et nous espérons que ça sera la nôtre. Nous avons les moyens pour le faire. Il y a deux situations qui se présentent par rapport à ce genre de match. Déjà, si on va jouer ce match-là dans l'esprit revanchard, c'est-à-dire en se disant non mais parce que la Côte d'Ivoire a gagné avant, ça sera très dangereux. Notre problème, c'est pas la Côte d'Ivoire. Notre problème, c'est de répondre présent dans les duels par rapport à tous les autres paramètres qu'on soit des vrais compétiteurs. On joue les huitièmes de finale d'une Coupe d'Afrique, on doit jouer les quarts de finale d'une Coupe d'Afrique. Là, il faut tout donner pour gagner. C'est l'esprit gagnant, ça n'a rien à voir avec l'esprit de revanchard. Je pense qu'on a les joueurs qui ont les moyens. En tant que Malien, je pense qu'on ne peut que espérer.
Une première en Afrique, le Mali est vice-champion du monde à la Coupe du monde de basketball des moins de 19 ans qui a pris fin hier en Grèce. L'équipe du Mali s'est inclinée hier à la finale contre les Américains 93-79. Et d'ailleurs, deux joueurs maliens figurent parmi l'équipe type de cette compétition. Il s'agit de Siriman Kanouté et de Oumar Balo.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Le tour d'horizon de l'actualité régionale nous amène d'abord à Ségou, une réflexion sur la transparence, l'intégrité, la lutte contre la corruption et la délinquance financière s'est tenue le jeudi dernier à Ségou. Cette rencontre organisée par CRI 2002 permettra d'informer et sensibiliser les citoyens sur la transparence dans la gestion des finances publiques et la bonne gouvernance. Les activités de la semaine culturelle et sportive de l'association des groupes rassemblés pour la réussite de Koro ont été lancées le vendredi 5 juillet. Ces rencontres placées sous le thème la culture culture au service de la cohésion sociale vise à prôner la paix et promouvoir l'intégration des jeunes déplacés. Elles ont été financées par le programme FAMOC de Think Peace. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez pas car l'info continue.